15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Marion Ruggieri.
Bonjour à tous et merci d'écouter Europe 1. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Il n'y en a pas deux comme elle. Doit-on croire au médium ? Ces passeurs entre le monde des vivants et l'au-delà, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h. Alors que 25% des Français consultent voyants et médiums au moins une fois par an, un chiffre qui a quasi doublé en 20 ans, et qu'un homme a décidé de prouver l'après-vie, comment, faut-il y croire ou pas ? On y répond avec le journaliste Stéphane Alix, fondateur de l'INRES, Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, et du magazine Inexploré. Bonjour.
Bonjour Marion.
Et merci d'être avec nous. Vous publiez Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie chez Albin Michel. Et c'est effectivement assez déboussolant. Vous allez tout nous expliquer. Et puis nous aurons également Christelle Dubois, aide-soignante, qui s'est rendue compte de sa médiumnité à 8 ans suite à un accident. Elle nous racontera la peur d'abord, puis ce qu'elle en a fait. Comme d'habitude, on attend vos témoignages sur le sujet. Appelez-nous au 3921, le standard est ouvert. Et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, hashtag P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence comme d'habitude par quelques chiffres. 25% des Français consultent des voyants et des médiums au moins une fois par an. 3 milliards d'euros, c'est ce que représente le marché de la voyance et des arts divinatoires en France. Plus de 15 millions de Français avouent croire aux prédictions des voyants. Environ 20% des femmes et 10% des hommes en France fréquenteraient chaque année l'un des 100 000 cabinets de voyance. Entre 1994 et 2011, le nombre de consultations divinatoires serait passé en France de 8 à 15 millions. Et vous, est-ce que vous croyez au médium ? On écoute vos réactions.
Oui, je crois au médium. Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ont des dons. Alors après, c'est plutôt des personnes, je pense, qui ont une fine psychologie et puis qui peuvent interpréter un petit peu l'avenir. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'avenir, mais peut-être un petit peu ce qui peut se passer pour une personne.
Moi, j'y crois pas. C'est impossible que quelqu'un puisse prédire l'avenir. Il n'y a jamais personne qui a su le faire. Et non, moi, j'y crois pas.
Je pense pas que ça soit possible. Bah, j'y crois pas en fait. Hein. Plutôt cartésienne.
Ah non, moi, j'y crois pas du tout. C'est totalement irrationnel pour moi. Alors, c'est pas des illuminés, mais je pense qu'ils prennent leurs envies qui sont inconscientes pour la réalité.
Tout ce qui est médium, tout ça, voyance, non, j'y crois pas. Maintenant, c'est peut-être vrai.
J'y crois pas, mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup.
On va dire, c'est plus des escrocs, ouais.
Mais j'ai des gens dans mon entourage qui sont déjà faits. 99%, ça s'est avéré des arnaques ou des gourous, on dit comme ça.
J'aimerais mieux pas savoir que si je doute de quelque chose, ceci dans le bon sens. On a déjà assez de mal avec la réalité, si en plus, il faut se projeter.
Et voilà, il y a 25% des Français qui vont voir des médiums, mais ils sont peu visiblement à le reconnaître dans les micro-trottoirs. C'est un peu comme la télé, tout le monde regarde Arte, mais en même temps quand on reçoit les audiences. Alors Stéphane Alix, afin de poser le sujet, de ne pas tout mélanger, puisque les chiffres qu'on a cités parlent indifféremment de médiums et de voyants, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer ce qu'est un médium ?
Oui, déjà on le voit dans le micro-trottoir, il y a effectivement une espèce de malentendu. Moi, ce que j'appelle médium et ce que j'ai investigué dans ce bouquin, ce sont les gens qui prétendent communiquer avec des défunts. Un voyant, c'est quelqu'un qui prétend
voir l'avenir,
faire une prédiction sur vous, sur vos proches, etc. Donc, parfois, c'est la même personne qui fait ces deux professions parce qu'il se trouve que les canaux de perception, les canaux intuitifs qui sont ouverts pour communiquer avec les morts sont les mêmes qui sont ouverts pour éventuellement avoir des perceptions sur le futur. Mais les deux activités sont vraiment distinctes à mes yeux. Et ce que j'ai testé dans le livre, c'est le contact avec les défunts.
Et c'est assez dingue, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que la médiumnie, c'est un don inné ? Ou est-ce que ça se travaille ?
Je pense que c'est un...
Est-ce qu'on peut avoir ce don et ne pas en avoir conscience, par exemple ?
Oui, on va observer dans sa vie, si on a vraiment un don assez marqué, on va observer dans sa vie des trucs bizarres. On va entendre parfois des voix, on va voir des personnages dans la chambre. À l'INRES, on reçoit un nombre assez incroyable de témoignages de personnes adultes, voire de parents qui nous parlent de leurs enfants, disant voir spontanément des gens dans la pièce, parler avec des défunts, etc.
L'INRES, je le rappelle, qui est l'Institut de Recherche sur les Expériences Extraordinaires que vous avez fondé.
Hein. Voilà, et pour lequel d'ailleurs un groupe de psychologues accueille bénévolement les gens qui vivent ce type d'expérience. Ce qui est important à dire, c'est que c'est un don. C'est un don, mais comme le football est un don, la pâtisserie est un don, le piano est un don. Vous pouvez l'avoir, ne pas le cultiver, ou cultiver quelque chose que vous n'avez pas vraiment. Vous pouvez l'avoir et le cultiver correctement pour en faire effectivement une profession. C'est vraiment... Vous allez rencontrer dans un panel de population un degré très varié de capacité de maîtrise. L'outil le plus important pour exercer ce don, c'est sa capacité de discernement. Parce que c'est un... On va y venir, je pense, mais c'est une capacité super intuitive. Donc l'intuition, par définition, ça va entrer en conflit avec ses peurs, ses craintes, son imaginaire. Et la difficulté pour un médium, c'est de réussir avec le temps et l'expérience à faire la dissociation entre ce qui est du domaine de son imagination, de ce qui est du domaine de ses perceptions. Et c'est ça qui fait un bon médium ou un mauvais médium, savoir vraiment faire ce discernement. Parce qu'il est avéré aujourd'hui, et ça je serais ravi que les gens que vous avez interrogés dans le micro-trottoir lisent mon bouquin parce qu'ils comprendront pourquoi.
J'imagine.
Mais aujourd'hui, là, il est totalement avéré que des gens ont des capacités de prévoir des événements à venir ou de contacter des personnes qui ne sont pas visibles et présentes dans la pièce. Ça, aujourd'hui, la preuve en est faite.
Alors, on va en parler de cette preuve. Alors, certaines séries télé ont déjà de l'avance sur le sujet et se proposent parfois de faire appel à des dons de médiums pour, par exemple, résoudre des enquêtes policières. C'est le cas de la série Medium avec Patricia Arquette qui s'interroge sur ses visions nocturnes.
Je crois pas que je peux être avocate.
C'est à cause de tes cauchemars, des voix, c'est ça ?
Mon boulot consiste à classer des clichés et je vois ce qui s'est passé à travers les photos, je le sais. Je le sens. Je m'assois avec ceux qui bénéficient de l'assistance, ils me racontent leur histoire et je suis absolument sûre qu'ils mentent ou qu'ils disent la vérité. C'est vrai, je le vois. Je vois la vérité. Je la sens. C'est comme une émission de télé ou une révélation.
Les rêves sont les rêves. Tout le monde rêve, c'est banal.
Est-ce que tout le monde voit des morts debout au pied de son lit ?
Voilà, c'était la série Medium. Pour beaucoup, vous le disiez, Stéphane Alix, Medium égale charlatan. Comment faire la différence ? Et surtout, est-ce que la médiumnie est reconnue par la science ? Vous parliez de preuves à l'instant.
Alors, elle est reconnue par les scientifiques qui s'intéressent au phénomène et qui l'ont étudié. Elle est rejetée en bloc par ceux qui ne s'y sont pas intéressés et qui ne l'ont pas étudié. Ça, c'est le propre de notre société. Quand on ne connaît pas un sujet et qu'on se prétend scientifique, on dit oui, tout ça, ce sont des fadaises. Mais ce n'est pas une attitude scientifique. Une attitude scientifique, c'est vraiment de s'interroger, de rencontrer les témoins, de mettre en laboratoire ce qui peut être mis en laboratoire et d'en tirer des conclusions. Et quand ça a été fait par certains chercheurs, en France ou aux États-Unis notamment, eh ben, on fait ce constat que des gens comme vous et moi, ou peut-être avec un don un peu plus marqué que vous et moi, sont capables d'obtenir des informations qu'ils n'ont aucun moyen conventionnel d'obtenir. Si par exemple... Oui.
Non,
oui.
J'allais vous demander, ça existe par exemple que la police ou dans d'autres affaires on fasse appel comme ça à des médiums en vrai ?
Alors il faut pour ça que les policiers ou les juges en charge de l'affaire soient bien ouverts sur ce phénomène pour qu'ils puissent considérer que ça puisse leur apporter une aide dans l'enquête. Et quand c'est le cas, bah, ça marche. Ça ne marche
pas
de façon magique. Ça a déjà été fait en France, ça a déjà été fait à l'étranger. Ça se fait assez discrètement parce que c'est pas un pouvoir magique. C'est pas un pouvoir magique qui va vous permettre, comme ça, d'un claquement de doigts, de trouver la solution à un problème judiciaire ou un problème d'assassinat, etc. Ça va être des éléments, informations qui vont venir s'accumuler aux autres éléments d'information qui sont acquis dans une enquête classique. Et ce petit plus peut parfois être décisif, mais encore faut-il que ce petit plus soit considéré comme quelque chose de sérieux. Et quand des policiers, et j'en connais certains, savent que non seulement c'est sérieux, mais que ça peut être vraiment utile dans une enquête, ils l'incluent, mais ils l'incluent de façon discrète. Ça ne peut pas apparaître dans une procédure légale, notamment en France, donc il faut trouver un autre moyen de justifier l'information qui va être obtenue de par ce biais. C'est trop déconsidéré encore.
Juste une question, on parlait de charlatan. Est-ce que les médiums, un médium, ça se paye ? Est-ce que c'est
oui,
une consultation
oui.
comme une autre ?
Bah, oui,
ou est-ce que c'est un don qu'on partage ?
Est-ce que Franck Ribéry fait du football gratuitement ? Enfin, écoutez, il a un don extraordinaire, il a un très bon salaire.
Il n'est pas très médiumnique, jusqu'ici.
Non, il n'est pas médiumnique, mais il a un don extraordinaire qui fait de lui un des footballeurs les plus importants de France. Pourquoi est-ce qu'il exercerait son métier gratuitement ? Si vous voulez, de considérer que un don, à partir du moment où il est un peu bizarre, ne doit pas être monnayé parce que ça va contre je ne sais quelle morale. Qui a inventé ça ? Pour moi, c'est absurde. Et c'est encore pire parce que ça alimente l'espèce de mise à l'écart de ces capacités-là. Un médecin qui va être reconnu pour son intuition, pour sa capacité à être dans l'écoute et dans une empathie avec son patient, c'est un don qui vient en supplément de sa pratique médicale. Pourquoi est-ce que ça devrait être gratuit ? Ça ne devrait pas être gratuit.
Alors Stéphane Alix, on va parler de l'expérience tout à fait incroyable que vous avez décidé de mener après la mort de votre père en glissant des objets dans son cercueil, en allant voir des médiums. C'est juste après Calogero sur Europe 1, J'ai le droit aussi et on revient.
Marion Ruggieri sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle. Europe 1, 15h-16h,
il n'y en a pas deux comme elle.
C'est sur Europe 1 avec Marion Ruggieri et cet après-midi nous nous intéressons aux médiums. Doit-on les prendre au sérieux? Pour en parler aux côtés de Marion, on a un de ses invités, Stéphane Alix, qui est journaliste et fondateur de l'INRES, Institut de Recherche sur les expériences extraordinaires, et auteur d'un livre qui s'appelle Le Test, une expérience inouïe.
La preuve de l'après-vie. Alors Stéphane Alix, vous avez donc organisé une expérience inédite. Le 22 juin 2013, vous avez glissé 5 objets dans le cercueil de votre père, juste avant qu'il soit scellé. Absolument personne n'était au courant. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà pourquoi vous avez fait ça?
Bah pourquoi pas?
Oui, alors c'est un peu court, mais...
Non, plus sérieusement, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à ces questions de la mort et de ce qu'il peut y avoir après. J'ai fait beaucoup d'expériences, beaucoup de thèses, j'ai rencontré beaucoup de médiums. J'ai été troublé, extrêmement troublé, convaincu de certaines capacités, mais j'avais toujours des questions qui demeuraient. Et puis surtout, j'avais pas réussi à faire une espèce de synthèse qui soit vraiment objective, vraiment objectivable, et qui puisse convaincre la personne qui m'apportait le plus de convaincre, c'était mon père. Dans les dernières semaines de sa vie, mon père était évidemment angoissé à l'idée de ce qui allait lui arriver. Les questions que je pouvais lui soumettre, les discussions qu'on pouvait avoir étaient un peu apaisantes, mais pas complètement. Et quand je lui disais « Mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a après? Est-ce que je t'ai donné à lire t'a convaincu ?» Il était incertain, il disait « Oui, mais pas trop ». Enfin, il était voilà, dans cette espèce de flottement qui accentuait son malaise, qui effectivement concerne les quelques 500 et quelques 1000 personnes qui meurent chaque année en France. Et je me suis dit « C'est quand même trop bête, avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec l'accès que j'ai et la connaissance que j'ai de ce sujet, de ne rien faire ». Et on avait évoqué, 6 mois avant son décès, l'idée de... Vous savez, on se dit toujours, le premier d'entre nous qui part fera un signe à l'autre. Donc on avait eu cette discussion avec mon père. On s'était dit, comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui soit vraiment objectif, qui te permette de m'envoyer un message le jour où tu seras de l'autre côté. Et puis on n'en a pas parlé de façon plus détaillée. Et en fait, tant mieux. Parce que si on avait élaboré ensemble le protocole, j'aurais eu toujours un doute qu'il en ait parlé à quelqu'un et que ça ait fuité. Ça serait extrêmement improbable, mais j'aurais eu ce doute. Tandis que là, cette expérience, je l'ai vraiment décidée après qu'il soit décédé le 16 juin. J'ai sélectionné moi-même ces objets. Je n'en ai parlé à personne.
Vous avez photographié, donc vous avez sélectionné des objets. On peut dire ce que c'est, un long pinceau fin,
oui.
Un tube de peinture acrylique blanche, la boussole de votre père, une édition de poche du désert des Tartares de Dino Buzzati, un de ses livres préférés, et un petit mot glissé dans une enveloppe écrue. Vous avez photographié tous ces objets.
Juste au moment de les mettre dans le cercueil. J'étais seul avec lui dans le funérarium. On avait procédé à sa mise en bière. Et là, c'était le dernier jour avant qu'on ferme le cercueil pour l'enterrer. Et je suis venu un peu en avant, j'ai caché ces objets. Puis j'ai vraiment fait un deal avec lui. Vous savez, toute expérience scientifique part d'une hypothèse. L'hypothèse, c'était qu'il était là, qu'il m'écoutait et qu'il allait participer à ce test. Donc très naturellement, j'ai caché ça sous son corps. Et j'ai dit, voilà papa, je cache ces objets avec toi. Je voudrais que, quand je vais aller voir des médiums plus tard, tu leur dises de quels objets il s'agit.
Et donc là, vous avez contacté... 6 médiums.
J'ai attendu un peu plus d'un an parce que je voulais que la tension, le trouble, l'appréhension descende un petit peu. Et puis effectivement, je suis allé voir des médiums un peu plus d'un an après, surtout pas en disant que j'allais les tester. Parce que vous avez lu le livre, vous avez compris
pour pas leur mettre la pression.
Ils sont très sujets au stress. C'est une capacité intuitive subtile, donc très fragile. Donc je leur ai dit, je vais faire un livre sur la médiumnité, on va faire des entretiens tous les deux, et puis on va faire juste une séance au début pour montrer aux lecteurs comment se passe une séance. Pour moi, il était évident que cette séance était absolument décisive, mais pour eux, je l'avais juste présenté comme une petite séance d'illustration au démarrage. Et donc, en fait, je commence la séance comme ils le commencent habituellement. C'est-à-dire, on s'assied, ils se mettent en concentration et ils essayent de capter les défunts qu'il y a autour de moi. Et là, ça a été le festival.
Alors là, quel a été le verdict? Donc, vous racontez l'expérience de ces 6 médiums. C'est assez stupéfiant. Il y en a qui voient beaucoup de choses.
La plupart voient beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'une séance de médiumnité, en fait, c'est comme si des défunts commençaient à venir vous frôler. Mais là, vous voyez, dans le studio, on est 3, il y a personne d'autre, on le sait. Et pourtant, un médium va être capable... Enfin, si, il y a d'autres mondes, en fait, mais on ne les voit pas. Mais un médium, justement, va être capable de les sentir. Mais c'est fragile, c'est subtil, c'est comme une pensée que vous avez, c'est comme un souvenir qui va s'étioler en une fraction de seconde. Donc la capacité du médium, ça va être en fait de réussir à suffisamment capter ces choses qui sont invisibles pour tous les autres et à les formuler. Et cette simple C'est ce simple exercice de formulation coupe la communication parce que ça passe d'un cerveau à un autre. Donc c'est une capacité extrêmement fragile. Et en fait, ce qui s'installe et ce que les gens qui consultent des médiums voient, c'est qu'il y a une forme de communication qui s'installe. Les médiums commencent à formuler des informations qui leur sont, disent-ils, données par des défunts. C'est des bribes d'informations. Et alors ce qui est curieux, c'est qu'avec les six médiums, les bribes d'informations se recoupent. J'ai les mêmes défunts qui se présentent parce qu'avant de montrer une photo de mon père pour affiner vraiment le test et en passer dans la deuxième partie du test, je laisse tous les défunts éventuellement présents se manifester. Et là, ce qui est quand même troublant, c'est que l'oncle Paul, qui est mort en 1915 sur le front allemand, est arrivé chez plusieurs médiums en donnant son prénom, que d'autres personnes de ma famille, comme ma grand-mère, mon grand-père, se sont également présentées.
Il y a toute la famille qui revient, en fait.
C'est ça qui est... Si on voulait expliquer ça par « c'est une coïncidence, c'est quand même bizarre », enfin, je veux dire, il faut quand même se lever tôt pour continuer à croire que c'est simplement de la coïncidence. Quoi.
Alors, il y en a un, Pierre Yonas, qui trouve l'enveloppe, avec le mot dedans, qui trouve la boussole, qui trouve le livre. C'est assez stupéfiant.
Oui, alors voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau.
Voilà,
c'est... Il n'y aurait pas eu de livre si... Enfin, je ne pense pas que j'aurais mené à terme ce projet si ça n'avait pas été aussi concluant que ça l'a été. Mais ce qui est le plus instructif pour moi, c'est qu'à aucun moment, une de ces séances n'a commencé par le médium me disant « Ah bah tiens, j'ai ton père à côté de moi qui me dit que t'as mis ça, ça et ça dans le cercueil. » Et ça... Pour moi, c'est vraiment la raison d'être de tout ce livre. Parce que je suis aujourd'hui convaincu qu'une forme d'existence se poursuit après la mort du corps. Mais tout ce qui me semble important d'essayer d'explorer, c'est qui est cette personne ? Qui est devenu mon père une fois qu'il est mort ? Parce qu'il est évident, et pour moi sans aucun doute, qu'il est encore quelque part, qu'il a été capable de donner toutes ces informations à ses médiums, mais il ne les a pas données spontanément, parfois c'était difficile, parfois il y a eu une sorte de jeu qui a été mis entre nous.
Et parfois ça va même au-delà de ça, puisqu'il y en a un qui vous dit, il y a une histoire d'alliance aussi, un moment dans le livre, il y en a un qui vous dit, qui vous fait comprendre que votre père vous remercie de lui avoir laissé son alliance.
Oui, ça c'est un épisode qui s'est passé, je crois, au funérarium, où effectivement on n'a pas voulu laisser sa bague tout de suite après l'avoir mise en bière, parce qu'il allait rester plusieurs jours dans le funérarium, et puis finalement on l'a remis. Donc ça c'était plutôt un petit message qui était destiné à ma mère, effectivement, parce que c'est elle qui avait décidé de lui laisser à son doigt. Donc voilà, c'est ça qui est très troublant, c'est que, si vous voulez, il y a un degré extrêmement varié d'informations qui sont données. Il y a les réponses aux tests qui sont données, donc ça c'est déjà absolument estomacant. Mais il y a aussi des informations, des petits détails, des petites choses comme ça qui vont parler à l'un ou à l'autre. Et justement, ce que j'offre dans ce livre, c'est de montrer comment se passe réellement une séance de médiumnité, au-delà de la magie, au-delà des fantasmes.
Et comment, vous qui êtes un garçon cartésien, qui avait été grand reporter en Afghanistan, comment est-ce que vous avez vécu tout ça?
Justement, depuis 10 ans que je m'intéresse aux phénomènes liés autour de la mort, aux expériences extraordinaires, etc., il y a toujours un problème, c'est qu'on travaille sur du subjectif, on travaille sur du témoignage. Donc j'en suis venu aujourd'hui à considérer quand même que le témoignage a une force de conviction importante et que c'est pas parce que quelqu'un vous raconte quelque chose d'extraordinaire qu'il est forcément fou ou qu'il vous ment. Mais malgré tout, il y a quand même un paramètre qui nous échappe. Or là, dans cette expérience, je maîtrise tout. Il n'y a pas un être humain vivant qui savait ce que j'avais mis dans le cercueil de mon père. Même ma femme, je vous l'ai dit, l'a appris après que le bouquin a été fini. Donc ça, c'est rationnel. On ne peut pas faire plus rationnel.
Alors Stéphane Alix, vous restez avec nous. On en parle dans un instant avec une de ces médiums que vous avez interrogée. Elle est aide-soignante. Rien ne l'a prédestinée à ça jusqu'à un accident. Elle va nous raconter ce qu'elle voit, comment. C'est juste après le billet de Benjamin Muller. À tout de suite sur Europe 1.
Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
Avec Marion Ruggieri qui est connectée à l'au-delà cet après-midi, puisque nous parlons des médiums, doit-on les prendre au sérieux ? Elle en parle avec ses invités.
Et avec Benjamin Muller, un médium s'il en est, qui
bonjour,
vient nous rejoindre.
Bonjour Marion.
Bonjour Benjamin. Alors adolescent, vous avez tenté à de nombreuses reprises d'entrer en contact avec l'au-delà, m'avez-vous dit. Est-ce que ça a marché, Benjamin ?
Je dirais que le résultat a été... mitigé. Je vous explique. Mon premier souvenir, la première fois où j'ai tenté de faire naître en moi des talents de médium, je devais avoir 10 ans. J'étais avec mon cousin, on est dans un camping en vacances à Aix-en-Provence, c'est précis. Et je me souviens, on s'est assis par terre, on a pris une pierre qu'on a posée entre nous et on s'est lancé. Esprit, es-tu là ? Esprit, si tu es là, fais-nous un signe. Et là,
mais
devinez
comme ça,
quoi ?
Juste avec une pierre accrue.
Une pierre
accrue.
Au milieu de nous deux.
D'accord.
Devinez quoi ? Une petite mouche est venue se poser sur notre caillou. Le tout est véridique, incroyable. Alors à l'époque, mon cousin, ça l'a fait marrer. Moi, j'ai cru à fond. Je me suis dit, j'ai un talent, c'est sûr, j'ai un don, c'est un truc de fou. Je peux invoquer personnellement les esprits. Évidemment, j'ai passé le reste de ma semaine de camping à rappeler les esprits de cette mouche qui n'est jamais revenue nous voir. Mais dans le doute, cette anecdote, je l'ai racontée à l'époque à la Terre entière dans l'espoir qu'on prenne un peu pour un être aux qualités surnaturelles. Deuxième tentative, deuxième grande tentative d'entrer en contact avec les esprits, avec qui je voulais bien me répondre. En fait, là, j'avais 16 ans. On était 5-6 copains en vacances dans une maison de famille. Là, c'était dans les Vosges. Vous voyez que je voyage
là,
beaucoup.
Là, vous aviez fumé.
Non, comment j'y allais. Donc, on était dans les Vosges. Un soir, l'un d'entre nous a eu une brillante idée. On éteint tous les lumières, on allume des bougies et c'est reparti. Esprit, es-tu là? Esprit, si tu es là, fais-nous un signe. En fait, ce que beaucoup d'adolescents faisaient à cette époque-là. Et là, rien. Enfin, rien pour le moment. Au bout de 5 minutes d'attente, l'un de mes camarades nous dit « Les gars, je vais mettre un peu de musique, ça va détendre les esprits, peut-être qu'ils vont venir. » Donc, je me souviens, il prend un CD de balade irlandaise, le met dans le lecteur CD, appuie sur play. Donc, vous imaginez la scène, on est 5 couillons assis en tailleur dans le noir, dans les Vosges. On s'attend à une petite balade irlandaise et là, rien du tout. C'est une musique de Bob Marley qui se lance alors qu'il a mis le CD irlandais. Vous imaginez le délire.
Je me souviens, c'est ce que je disais, en fait.
Il y avait peut-être un peu de ça, je me souviens plus. Je me souviens plus exactement de notre réaction, mais ça a dû être quelque chose du genre truc de gueudin, l'esprit de Bob Marley est là, Bob est dans les Vosges. D'ailleurs, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, sans doute que si Bob revenait, il viendrait pas dans les Vosges. Enfin bref, c'est un autre sujet. On est là à halluciner d'entendre Bob Marley, ça nous fait la soirée, on se couche, comme touché par la grâce, le prophète est parmi nous, et le lendemain matin, j'ouvre le lecteur CD, j'enlève le fameux album de musique irlandaise, et là, qu'est-ce que je vois en dessous de l'album?
Une mouche!
Non, un CD de Bob Marley! C'est-à-dire que mon pote, la veille, sans doute un peu bourré, avait mis le CD de balade irlandaise sur le CD de Bob Marley. Bref, on s'est rendu compte.
C'est passionnant,
là...
vos expériences avec votre
là, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, si je veux poursuivre dans cette carrière, sans doute vais-je me diriger vers une carrière de charlatan. Et ça m'en fait arriver à ce que je voulais dire, en fait, dans le fond de cette chronique, c'est que des charlatans qui malmènent un peu l'image générale des médiums, je crois qu'il y en a quelques-uns. Une image ternie par, vous savez, ces petites annonces légèrement farfelues. Alors, je vous en lis donc trois que j'ai repérées sur Internet, repérées par des internautes à Paris, Nice et Montpellier. La première, c'est l'annonce du docteur Gao, qui se présente sur le petit papier comme médium voyant, mais aussi gynéco, ophtalmo et andrologue. Lui a trouvé le moyen de guérir le sida, peut vous vacciner contre le cancer et a même des talents, explique-t-il, de garagiste spécialiste en vieille voiture. Bref, un voyant polyvalent. Deuxième annonce, monsieur Khalif. Lui aussi se présente comme médium et lui, grand classique, vous promet de faire revenir l'être cher pour seulement 100 €. Et avec le petit plus de monsieur Khalif, si votre copain est parti pour une autre, je le ferai revenir et vous suivre comme un chien qui poursuit son maître. Seulement 100 €, ça vaut le coup. Troisième annonce, ma préférée, monsieur Nguyen, qui officie à Nice. Alors bien sûr, il s'occupe des classiques, problèmes d'érection, petit pénis, panne de cœur. Mais là, et c'est la petite patte de monsieur Nguyen, il peut aussi réparer votre ordinateur à distance, par télépathie, comme quoi on n'arrête pas le progrès. Alors Stéphane, Alix, petite question. Là, ce sont des annonces un peu grosses, mais globalement, si moi, demain, même si bon, vous avez vu que j'ai peu de talent au final, je veux voir un médium sérieux, comment est-ce que je m'y prends pour distinguer le bon du vrai médium?
Alors
le
déjà,
bon du mauvais médium.
Benjamin, vous avez... aucun talent pour communiquer avec les défunts. En revanche, vous savez parler aux mouches.
C'est ça. Et
je serais vous, je vous le dis.
Aux auditeurs, Benjamin, on ne peut pas vous retirer ça.
Non, mais vous posez une question qui est éminemment importante, effectivement. Il est clair que dans les annonces que vous avez signalées, c'est très facile de savoir qu'on a affaire à des gens qui sont un peu farfelus. Le problème se pose considérablement, mais je crois que pour ceux qui seraient intéressés de communiquer avec des médiums, enfin avec des défunts par l'intermédiaire d'un médium, il faut se renseigner un petit peu. Il faut se questionner sur son envie, sur
d'accord,
pourquoi est-ce qu'on
comment,
a envie de...
Comment c'est, est-ce qu'il existe un bottin des bons médiums?
Non, il n'y a pas de bottin des bons médiums, au même titre qu'il n'y a pas de bottin des bons gynécologues ou des bons médecins. C'est la réputation qui va faire soit la bonne réputation ou la mauvaise réputation.
Le médecin a un diplôme déjà.
Oui, ben voilà, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, les médecins passent par une école qui permet au moins d'identifier une bonne pratique. Les médiums n'en ont pas, les médiums ne sont pas reconnus. Et le fait qu'ils ne soient pas reconnus et maintenus comme ça à l'écart de la société fait que n'importe qui peut s'instituer médium du jour au lendemain.
Moi, je pense. Et d'ailleurs, pardon de vous interrompre, tous ceux que vous avez vus ont un autre métier, ont un vrai métier, si je puis dire,
sont
à la retraite, ou mais en tout cas.
Ils avaient pour certains un autre métier avant, et ils se sont engagés aujourd'hui.
Parfois, leur corps défendant.
Sauf Christelle qu'on va entendre, qui effectivement est toujours
aide-soignante.
Aujourd'hui. Tous se sont engagés complètement dans la médiumnité, un peu contraints et forcés. Pour répondre à votre question pratique, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se la posent effectivement. Je pense que la réputation fait quelque chose. Donc si vous avez un nom de médium, googlisez-le, vous allez tomber sur des... Soyez un petit peu actif vous-même, quoi. Et soyez pas passif. Il faut, c'est une démarche importante, c'est une démarche qui n'est pas gratuite, pour laquelle il faut que vous soyez aussi responsabilisé. Donc il y a des moyens de vérifier ce que l'on dit sur un médium sur Internet.
Et puis s'il répare les grippins et fait revenir votre ex, c'est que
c'est comme les petites annonces. C'est comme les petites annonces de voyance à la fin des magazines de mode féminine. C'est évidemment de l'escroquerie. Donc ça paraît absurde de devoir le dire, mais c'est le cas.
Et puis bêtement, on peut aussi conseiller d'acheter votre livre où évidemment vous prouvez que certains réussissent à voir ce qu'il y avait dans le cercueil, et donc on peut imaginer qu'eux sont un peu plus crédibles.
Je ne peux vous appuyer parce qu'effectivement ça demande d'être compris un petit peu ce métier. Effectivement, dans ce livre-là, j'explique comment se passe une séance. Les médiums parlent de leur métier eux-mêmes, donc ça permet, une fois que vous allez vous retrouver devant quelqu'un, de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement farfelu ou qui fait son travail sérieusement.
Merci Benjamin. Elle parle aux morts pour de vrai. Elle est aide-soignante et médium, un don arrivé par accident à 8 ans. Elle va tout nous raconter. Son nom, c'est Christelle Dubois. Juste après, rendez-vous dans une autre vie de Françoise Hardy. À tout de suite sur Europe 1.
Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1. 15h-16h sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
Esprit et Tula sont des bons esprits, des bonnes vibrations cet après-midi avec Marion Ruggieri dans l'émission.
Faut-il croire les médiums? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h et on y répond avec vous, Stéphane Alix, qui publiait Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie, dans lequel, je le rappelle, vous racontez avoir glissé des objets dans le cercueil de votre père pour ensuite interroger des médiums sur ces 10 objets. Comment se passe un rendez-vous avec un médium? On en parlait un instant et on va en parler dans un instant avec une vraie médium. Mais d'abord, on écoute un extrait du film Au-delà de Clint Eastwood où Matt Damon a un don évident pour faire entrer en contact des gens avec leurs proches qui sont morts. Écoutez.
Bon, monsieur...
Andréou.
Alors, je vais vous tenir les mains juste le temps d'établir le contact et pour les besoins de la séance, contentez-vous de répondre par oui ou par non. Une femme qui vous était proche est morte?
Oui.
Est-ce que c'était votre épouse?
Oui.
Elle vous demande pardon d'avoir fichu le mariage en l'air. Elle espère que vous trouverez quelqu'un d'autre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous ne rajeunissez pas et vous ne maigrissez pas.
Voilà, c'était Matt Damon, médium du film Au-delà de Clint Eastwood que vous avez vu, Stéphane Alix. Vous me disiez que c'était un très bon film.
Ah oui, que ce soit Cécile de France qui joue le rôle d'une journaliste qui vit une expérience de mort imminente ou Matt Damon qui joue le rôle d'un médium. Je crois que j'ai rarement vu un film aussi juste sur la description de ces phénomènes.
Alors justement, nous sommes en ligne avec une médium, une vraie, celle-là, Made in France. Bonjour Christelle Dubois.
Bonjour Marion, bonjour Stéphane.
Merci d'être en ligne avec nous. Alors on le disait, vous êtes aide-soignante. Et oui, pour résumer un peu votre parcours, vous avez compris que quelque chose se passait à l'âge de 8 ans après un grave accident de voiture. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots?
Alors oui, cet accident de voiture a été assez révélateur pour moi parce que donc j'ai vécu quelque chose d'assez magique pendant l'accident. Donc c'est ce qu'on appelle une EMI maintenant.
Une expérience de mort imminente.
Voilà, tout à fait. À l'époque, je ne savais absolument pas ce que c'était et ni ce que j'avais vécu. À 8 ans, je crois que c'est un peu difficile de vraiment déterminer ce que l'on vit réellement. Moi, je l'avais intégré dans mes souvenirs, dans quelque chose de superbe que j'avais vécu. Et ça s'arrêtait là, tout simplement.
Alors, à l'époque, vous n'avez pas conscience, oui, effectivement, de ce qui se passe, comme vous le dites. C'est vers 13-14 ans que vous découvrez un peu ces capacités hors du commun qui vous habitent et qui se manifestent comment? Qu'est-ce que vous voyez?
Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois des personnages qui sont au pied de mon lit, surtout quand je me réveille le matin. Donc, ça veut dire que je me suis réveillée maintes et maintes fois avec des personnes au pied de mon lit qui m'observaient dans un premier temps et j'arrivais à voir comment ils étaient habillés. Parfois, ils se manifestaient comme une silhouette qui était vraiment, qui m'observait tout simplement.
Et donc, ils ne vous parlaient pas?
De savon.
D'accord, qui vous parlait pas?
Dans un premier temps, j'avais pas la claire... Enfin, je faisais que de les voir. Après, de les entendre, ça s'est mis en place au fur et à mesure.
Mais d'abord, avant de les entendre, quand vous les voyez, vous vous dites quoi? Vous avez peur? Vous vous dites que vous délirez? Vous en parlez aux gens autour de vous?
Non, absolument pas. J'ai gardé ça pour moi. Encore une fois, comme mon expérience lors de mon accident de voiture, j'ai gardé ça en moi comme si ça faisait partie de la normalité, comme si c'était quelque chose que tout le monde vivait. Enfin voilà, ça m'a pas questionné plus que ça. J'ai pas vraiment eu peur non plus parce que C'était fait vraiment dans des... C'était fait en douceur, tout simplement. Il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de choses qui faisaient peur, comme on peut voir dans certaines séries télé, etc.
Dans Le Sixième Sens, notamment, parce que ça fait vraiment penser à ça avec Bruce Willis. Voilà. Il paraît que vous avez commencé, donc, ce que vous nous disiez, par voir des silhouettes, puis vous les avez entendues, et là, vous ne les entendiez pas avec les tympans, avec les oreilles, mais vous les entendiez comme dans un endroit précis, derrière la tête.
Voilà, tout à fait. Et c'est comme ça au jour d'aujourd'hui que je les entends encore. Ça veut dire que c'est pas une voix que j'entends dans mon tympan, dans mon oreille. C'est une voix qui arrive derrière, à un endroit très précis au niveau de ma tête. Et c'est assez particulier. Donc là aussi, je sais que ce n'est pas, j'extrapole pas. Enfin voilà, c'est vraiment une voix qui arrive. Comme ça, je ne maîtrise absolument pas cette voix.
Alors quand vous êtes adolescente, vous décidez de, pour vous protéger, de rejeter tout ça, hein, c'est-à-dire que vous dormez tout le temps la tête sous les draps, et puis vous demandez aux âmes, en gros, de vous foutre la paix, quoi, si je résume. Mais elles vous ont obéi, pardon de vous poser la question bêtement. Mais...
C'est un bien grand mot. Elles ont respecté. Je pense que, parce que quand vraiment j'ai compris que c'était des personnes qui étaient décédées, parce qu'après il y a quand même la phase adolescente où je comprends que je suis en contact avec des phénomènes, enfin pas des phénomènes, mais avec des défunts, là j'ai pris quand même beaucoup la frousse, ça m'a aussi fichu un petit peu en colère, parce que je voulais pas de ces choses-là, je voulais pas qu'on vienne m'embêter, j'avais l'impression qu'on venait s'incruster dans ma vie, et ça je ne supportais pas. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette forme de respect vis-à-vis d'eux, comme si quelque part ils comprenaient que j'étais pas prête. Et je pense qu'à 13-14 ans, on n'est peut-être pas forcément prêt à vivre ces événements, donc ils ont été assez respectueux vis-à-vis de moi.
Et là, comment vous avez finalement apprivoisé et affiné ces perceptions ? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est votre quotidien, non ?
Aujourd'hui, c'est mon quotidien. J'apprivoise encore, hein. Je n'ai pas encore tout maîtrisé. J'ai en fait, à la suite de mon deuxième accouchement, lorsque j'ai eu ma fille, j'ai vécu encore une expérience qui fait que là, j'ai accepté de recevoir les messages, etc. J'ai accepté en fait à être qui je devais devenir. Voilà, j'ai accepté ce pourquoi j'entendais tous les messages, etc. Donc à ce moment-là, une fois que j'avais accepté, il y a eu cette c'était donnant-donnant un petit peu. J'acceptais de recevoir et en même temps, ils acceptaient d'aller en douceur. Voilà, ça s'est mis en place petit à petit. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai appris à ouvrir et fermer. C'est un peu rigolo.
Justement, alors, ces apparitions, si je puis dire, est-ce qu'elles sont quotidiennes? Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'elles vous veulent?
Au niveau de mon métier, quand je suis avec ma blouse d'aide-soignante, ils demandent beaucoup de transmettre des choses à leur famille. C'est essentiellement ça. Ça veut dire que une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, ils ont ce besoin de faire comprendre à leurs proches qu'ils sont passés dans un autre monde, entre guillemets. Ils ont vraiment besoin de montrer leur survivance. Donc c'est essentiellement axé là-dessus quand je suis au travail. Mais dans ma vie quotidienne et que j'ai pas fermé le canal, entre guillemets, bah, c'est des âmes qui ont besoin d'aide pour passer de l'autre côté. C'est des âmes qui ont surtout besoin de démontrer leur survivance. Voilà, ils ont vraiment besoin de dire bah, on existe, on n'est pas mort, on est passé ailleurs.
Et vous fermez le canal comment ?
Alors, c'est assez compliqué à expliquer avec des mots parce que moi, je le fais de manière naturelle et... En fait, je ne veux plus les voir et plus les entendre. Donc, ça veut dire que je me mets en mode veille. Donc, ça veut dire que même s'ils me parlent, même s'ils essayent de me dire quelque chose, je réponds pas. Voilà. Et puis, à un moment donné, ça se dissipe, ça s'arrête.
Aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui est venu vous voir ?
Non, pas aujourd'hui.
Donc, vous avez des jours off ?
Oui, j'ai des jours off parce que j'ai une famille, parce que j'ai des enfants, j'ai une vie tout à fait classique et je ne veux pas me faire happer par continuellement vivre dans cette médiumnité parce que j'ai remarqué que certains médiums qui étaient continuellement dans cette médiumnité ont mis perd pied quand même. Et c'est là qu'on manque un petit peu de discernement.
Une dernière petite question. Votre famille, vos enfants sont au courant ? Vous leur faites partager ce don ?
Non, je ne leur fais pas tout partager parce qu'ils sont petits et qu'ils ont besoin de vivre leur propre expérience. Par contre, ils savent que je fais des choses. Alors le grand qui a 12 ans, pour lui, c'est pas... Maman, elle n'est pas normale. Elle ne fait pas des trucs normaux. Donc il n'en parle pas. Lui, il veut absolument pas savoir ce que je fais, etc. Et la plus petite, bon, elle écoute pas vraiment non plus. Enfin, ils savent sans savoir réellement l'impact que cette médiumnité peut avoir.
Et juste une chose, après j'arrête, parce qu'on malheureusement on est pressé par le temps, mais les gens que vous allez voir en leur délivrant ces messages, ils réagissent comment ?
Bah déjà, c'est pas moi qui vais voir les gens, c'est les gens qui viennent me voir. Parce que je pars de principe, je déteste la médiumnité sauvage, là où on va voir les gens.
D'accord.
Les gens,
dans un restaurant, voilà, vous levez, vous allez voir quelqu'un,
non,
ça non. D'accord.
Non, ça fait pas partie de ma façon d'être. Quand les gens viennent, c'est que généralement, ils sont dans cette démarche de venir consulter un médium. Et j'essaye un maximum de leur donner des détails relativement précis pour justement qu'ils reconnaissent ce défunt. Donc généralement, c'est quelque chose d'assez magique pour eux parce que ils ont la preuve que ça y est, il y a quelque chose de l'autre côté. Donc c'est assez, c'est souvent des belles séances que l'on a.
Christelle Dubois, nos auditeurs, s'ils veulent vous contacter, ils peuvent.
Oui. Alors en douceur, hein, parce que je prends pas beaucoup de personnes. J'essaye de limiter un maximum parce que ma priorité, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont dans le deuil. Donc je ne fais pas de voyance ou de choses prédictives. Je fonctionne absolument pas là-dessus. Donc
très
j'ai
bien.
Un site internet. Voilà, ils peuvent aller voir
très
sur
bien.
Internet.
Je vous remercie mille fois d'avoir
à vous,
répondu
Maria.
À nos questions. À bientôt, j'espère. Merci Christelle Dubois. Stéphane Alix, tout ça est fou.
C'est... Oui, tout ça est fou, mais c'est ce qui, la chose pour moi la plus importante, c'est que Christelle, qui m'a raconté sa vie, que je présente dans le livre comme celle des autres médiums, sont des gens qui sont dans un grand discernement. Ce sont
oui,
les premiers.
Oui, on l'a entendu. Ils restent, qui ont les pieds sur terre.
Ils ont les pieds sur terre. Ce sont les premiers à mettre en doute ce qu'ils vivent, ce qu'ils perçoivent. Ce sont des gens qui ne sont pas intrusifs, qui peuvent percevoir effectivement des messages destinés à des gens qui les entourent. Ils ne vont pas spontanément leur balancer tout simplement parce qu'ils ont capté quelque chose. Au même titre qu'un cardiologue, voyant quelqu'un respirer pas forcément bien, va pas forcément lui dire vous avez un problème au cœur. Donc il y a un profond respect de ces gens-là. Et ça, je pense que ça casse aussi un petit peu l'image du charlatan ou de l'escroc. Les gens que j'ai rencontrés sont des gens vraiment bien, qui sont dans une mission de vie et de service auprès des gens en deuil.
Stéphane Alix, vous restez avec nous, on écoute la balade Apples du petit groupe québécois qui cartonne, Seasons, pour reprendre un peu notre souffle. Et puis juste après, on écoute vos témoignages, vos réactions, vos questions au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission et via Twitter, hashtag P2CE. À tout de suite sur Europe 1.
Il n'y en a pas deux comme elle.
De 15h à 16h sur Europe 1.
La question de cet après-midi, doit-on prendre au sérieux les médiums ? On se pose des questions avec Marion Ruggieri et son invité. Et vous aussi, il n'y en a pas deux comme vous, c'est tout de suite.
Et oui, on répond à vos questions avec notre invité Stéphane Alix. Alors, beaucoup de réactions. D'abord, alors certaines sceptiques. Hein. Laurent Johnny nous dit sur Twitter, certainement pas. Il suffit de raconter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. N'importe qui peut faire ça. Savoie 73 Libre qui nous dit, la physique quantique commence à s'interroger sur la médiumnité dans le cadre de la théorie du multivers. Ça, je ne connaissais pas. Enora, alors, beaucoup de Enora qui nous dit, comment est-ce qu'on trouve un bon médium ? Ça, je crois que vous y avez répondu tout à l'heure à Benjamin Muller. En gros, il ne faut pas être passif, quoi.
Il ne faut pas être passif, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on veut aller le voir ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Il faut regarder sur Internet si ce médium a des bons commentaires ou des mauvais commentaires. Et une fois qu'on est en consultation, il faut être très vigilant sur son attitude, donner le moins d'éléments, voire aucun élément sur le défunt, ne pas répondre aux questions. Et si vous voyez que le médium vous pose pas mal de questions... Théoriquement, il n'en a pas besoin. Le médium, il pose
c'est
des questions.
C'est combien une séance chez le médium, pardon ?
Oh, ça peut aller pour des médiums très réputés, ça peut aller jusqu'à 150 euros, ça peut tourner autour de 60, 70, 80 euros. C'est pas une activité que vous pouvez faire. Vous pouvez pas faire 50 consultations dans la journée, ni 10 dans la journée. Donc, c'est parfois effectivement un peu cher.
Alors, Léo nous dit, vous avez parlé tout à l'heure du spiritisme d'ado. Qu'est-ce que vous pensez des jeux comme Ouija, auxquels on jouait tous adolescents, hein ? On se mettait tous en ronde autour d'un triangle.
Alors,
qui voulait
ça,
jamais bouger, qu'on poussait nous-mêmes.
C'est vraiment pas un jeu.
Ah,
ça
vous,
peut
vous
avoir
y croyez
des...
donc
bah, c'est pas que j'y crois, c'est que je sais que de l'autre côté, il y a du monde. Il y a du monde qui parfois est un peu perdu. Vous savez, je crois que la vie après la mort, on n'arrive pas dans un espèce de paradis lumineux. On est en fait dans une sorte de prolongement de notre existence à nous. Donc, les gens qui étaient perdus, fous, dangereux, méchants de leur vivant, bah, ils continuent à pas être des gens extrêmement fréquentables de l'autre côté. Et ces gens-là errent. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les médiums et toutes différentes traditions à travers le monde qui le disent. Ces gens-là errent dans une espèce de confusion, comme vous savez, comme quand on est dans des cauchemars bizarres
et
dont on n'arrive pas à sortir.
Et vous pensez qu'on peut entrer en contact avec eux via ce genre de jeu ?
Ces gens-là guettent la lumière. Et quand il y a des petits gamins qui essaient de jouer avec un Ouija et puis d'appeler les esprits, c'est en général général ces types-là qui sont complètement perdus et toxiques qui arrivent. Et ça peut se passer très très mal.
Donc vous le déconseillez.
Ah, je vous déconseille fortement.
Non, on l'a beaucoup fait en vain. Ouais. Il y a justement Julie qui nous dit, est-ce que les mauvais esprits, comme on dit, peuvent s'en prendre physiquement aux gens?
Non,
vous
ça
n'avez jamais
encore...
été témoin de...
Je suis témoin de relations toxiques qui peuvent s'instaurer avec le temps. Quand quelqu'un a une fraille psychologique ou émotionnelle en lui, il peut être sujet à beaucoup plus d'influence de la part d'un monde invisible. C'est un domaine qui est exploré aujourd'hui par certaines écoles de psychanalyse et de psychologie, qui est assez intéressant et assez troublant. Ce serait difficile de tout résumer aujourd'hui, mais effectivement, les mondes ne sont pas si étanches et séparés que ça. Mais on n'est pas au cinéma.
Et une dernière question de Paul qui dit « Mon fils de 6 ans a beaucoup d'amis imaginaire, certains très omniprésents, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que les enfants sont plus sensibles,
oui,
peut-être, si tant est que ça existe, à ce genre de contact?
Écoutez, s'inquiéter, si vraiment il est inquiet, je lui conseille d'écrire à l'INRES et des psychologues lui répondront bénévolement pour lui donner des orientations. Mais sinon, le simple conseil, c'est simplement d'écouter son enfant, de voir ce qu'il dit. Si l'enfant, lui, est mal à l'aise, il a peur, il est inquiet, bah, il faut effectivement l'écouter d'une façon un peu différente. Mais s'il a l'air de gérer ça tout à fait convenablement, ne pas forcément dire « ça n'existe pas, c'est des trucs imaginaires ». Et puis, voilà, faut écouter. Vous savez, ce qui manque dans notre société, c'est une écoute bienveillante sur tous ces phénomènes.
Et on donne les références de l'INRES sur notre page Facebook. Et enfin, le standard. Liliane de QC dans l'Allier nous dit « Je voulais savoir si les rêves prémonitoires s'apparentent à de la médiumnité. » Et Brigitte, un peu dans un même registre, à Saint-Brévin-les-Pins, nous dit « Depuis toute petite, je sens que les choses vont arriver à mes proches. C'est souvent des décès, des maladies, des accidents. C'est une sensation que je ressens, mais qui est difficile à expliquer. » Vous y croyez ça, aux rêves prémonitoires?
Mais tout ça, c'est le même registre. On est dans l'intuition. L'intuition est un outil qui est un outil extraordinaire qui nous permet, quand il est développé, de nous connecter à toute une gamme d'informations, parfois des défunts, parfois des informations futures. Et ça peut être un outil, mais d'épanouissement personnel colossal qu'il faut apprendre à cultiver avec discernement.
Stéphane Alix, merci mille fois d'avoir été avec nous. Le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie est paru chez Albin Michel. C'est paru hier, me semble-t-il. Et votre revue inexplorée est dans les kiosques et sur Internet. Merci, à très bientôt, j'espère. On se retrouve, nous, demain de 3 à 4 dans Il n'y en a pas deux comme elle pour répondre à cette question qui nous concerne tous. Le stress au travail peut-il nous détruire? Comment le gérer? Avec un témoignage hallucinant, vous verrez, vous allez voir que c'est beaucoup plus insidieux qu'il n'y paraît. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi avec un workaholic, s'il en est, Cyril Hanouna.